Un Britannique, Français, Allemand et Ukrainien vont se rencontrer pour évoquer le plan de paix proposé par les États-Unis. Projet en 28 points jugé trop favorable envers Moscou. Volodymyr Zelensky a déjà annoncé qu'il présentera des contre-arguments. Ce plan de paix proposé par le président américain qui ne convient pas non plus, même dans son propre camp, des sénateurs démocrates mais aussi républicains font part de leurs préoccupations importantes à ce sujet. Il n'y aura pas de paix durable en offrant des concessions après concessions à Vladimir Poutine, ont rapporté les élus. Le plan proposé par la Maison-Blanche prévoit notamment la cession à la Russie de plusieurs régions occupées en Ukraine, ainsi que la réduction du nombre de soldats et le renoncement pour Kiev d'intégrer l'OTAN. La COP30 au Brésil est une déclaration finale qui manque d'ambition pour les pays européens. Ce n'est pas une réussite, selon la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu. Les 200 pays sur place à Belém ont tout de même signé cet accord, malgré l'apparition claire et distincte de la mention des énergies fossiles et une feuille de route pour en sortir. Emmanuel Macron plaide pour une relation apaisée avec l'Algérie en marge du G20 qui se déroule en ce moment à Johannesburg en Afrique du Sud. Le chef de l'État a déclaré que les relations entre les deux pays, déjà mises à mal par les contentieux sur le Sahara occidental, se sont envenimées après une série de déclarations critiques venant de l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, son départ du gouvernement et la grâce récente accordée par Alger à l'écrivain Boualem Sansal ont entrouvert la voie à une potentielle détente entre les deux pays. Plus on sera nombreux, moins ce sera possible de nous faire taire. À Marseille, l'émotion et la colère lors de l'hommage à Mehdi Kessassi. Plus de 6000 personnes se sont rassemblées hier après-midi dans la cité phocéenne, une semaine après l'assassinat du frère du militant contre le narcotrafic, Amin Kessassi. De nombreuses personnalités politiques de tous bords étaient présentes également. Les 130 participants à la Convention citoyenne sur le temps de l'enfant rendent leur rapport aujourd'hui. Et parmi les préconisations, avoir école 5 jours par semaine dès l'élémentaire, séparer la France en 2 zones de vacances au lieu de 3 en ce moment, pour mieux respecter les rythmes biologiques des enfants. Parmi les 20 propositions contenues au total dans le rapport, la Convention propose aussi que les cours ne commencent pas avant 9h au collège et au lycée. Ce rapport sera remis au gouvernement. Au Stade de France, les Bleus se rassurent pour leur dernier match de la tournée d'automne. L'équipe de France de rugby s'impose 48 à 33 face à l'Australie. Et puis ça y est, la neige est bien là en Ile-de-France. Toute la région est en vigilance orange neige et verglas cette nuit. C'est aussi le cas pour 6 départements plus au sud, la Haute-Vienne, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze et l'Aveyron.
Minuit 6h, c'est la nuit sur France Info.
Le brief politique, les indiscrets.
C'est l'heure de votre rendez-vous donc pour tout comprendre des coulisses de notre vie politique mouvementée. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour à tous.
Ce matin, comment mettre Jordan Bardella en difficulté? Ses adversaires, notamment au centre, s'interrogent alors que dans les sondages, le président du RN est désormais systématiquement donné en tête en vue de la présidentielle.
Je pense qu'il est trop fort, se désole un député de sa génération pour qui ce que fait Bardella est tout simplement exceptionnel. Et d'énumérer prestance, coups politiques, réseaux sociaux, débats, art oratoire, il maîtrise tous les formats. Règne donc, vous l'entendez, en coulisses. Une forme de fatalisme plutôt étonnante d'ailleurs autour de l'idée que non seulement tout glisse sur le président du Rassemblement National, mais qu'il parvient même à faire oublier son âge, jouant la posture de l'homme politique expérimenté. Et ça, les macronistes le déplorent. Les gens ne pensent pas qu'il a 30 ans. C'est très parisien de se conforter dans l'idée qu'il est jeune et qu'il va se dégonfler, raille un conseiller. L'inquiétude se diffuse malgré tout. Jordan Bardella serait désormais totalement installé dans le paysage politique. Oui, il y a de l'enthousiasme dans la population, nous dit ce spécialiste des questions d'opinion, qui évoque la lente construction d'un vote d'adhésion autour de Jordan Bardella. Un élu conclut, il est extrêmement talentueux, certes, mais à beaucoup de lacunes.
Ça veut dire que ces possibles lacunes, c'est l'angle d'attaque des macronistes et de leurs alliés, Paul ?
Étant entendu que l'argument moral, répété que le RN est un parti fondé par d'anciens Waffen-SS, a beau être factuel, il semble ne plus avoir d'impact dans l'opinion. Une faille est en train de s'ouvrir, se persuade un maire horizon proche d'Edouard Philippe. Le débat budgétaire met en avant leur immaturité économique. On essaye de montrer aux petits patrons que le RN vote l'inverse de ce qu'ils leur disent, se rassure un député du groupe Ensemble pour la République. Autrement dit, Jordan Bardella pourrait être mis en difficulté à la faveur de débats plus techniques. Autre angle d'attaque des prochaines semaines, dire que c'est le candidat de l'argent du système Bolloré, cingle un communicant qui cite les médias du milliardaire Vincent Bolloré comme CNews ou les éditions Fayard, éditeur de ces deux livres. Bardella n'a recours qu'à des lieux communs. Il va se jupéiser, croit savoir un ancien ministre, pour se convaincre que le président du RN est peut-être parti trop tôt, trop vite, trop fort dans les sondages. Une campagne présidentielle, c'est du laser permanent. Vous êtes scruté H24 aux un ministre. Quand un élu pense avoir trouvé le point sensible, c'est le favori. Et ce n'est jamais simple d'aborder une élection comme ça. Bardella a le melon, il est devenu prétentieux.
Merci à vous, Paul Barcelone.
Le billet science.
Et c'est l'heure de nos découvertes scientifiques. Bonjour Bill François.
Bonjour.
Ce matin, découverte fracassante. Direction pour ça, l'Amazonie au cœur de la forêt vierge, on l'imagine immaculée, jamais touchée par l'homme. Sauf, et c'est ce que vous nous dites Bill, qu'on en est bien loin, c'est ce que disent des chercheurs boliviens.
Et oui, cette découverte s'inscrit dans une grande redécouverte de la véritable histoire de l'Amazonie. On a longtemps cru que cette forêt, qui couvre à elle seule 4% des terres de la planète, était très peu peuplée, un vrai désert humain. Mais en réalité, toute une civilisation s'y développait depuis le néolithique jusqu'au XVIe siècle, avec jusqu'à 10 millions d'habitants qui ont modelé la région, transformé ses paysages. Ce sont même eux qui ont domestiqué des végétaux comme le manioc, le cacao, la courge ou le maïs. Toute cette agriculture s'effectuait sous la forêt, donc en harmonie avec les cycles naturels, et faisait l'objet de vastes échanges commerciaux entre des grandes cités perdues. Tout ça est juste oublié aujourd'hui, car cette civilisation s'est brusquement effondrée, décimée par les maladies apportées par les conquistadors.
Alors on a des traces qui en témoignent.
Oui, les images satellites des paysages révèlent des vestiges d'infrastructures, des villes, des routes. D'autres indices sont la présence d'espèces végétales ou encore la composition des sédiments ou des dépôts de pollen. Dans la dernière étude réalisée en Bolivie et publiée la semaine dernière, ces indices ont permis de montrer qu'entre l'an 600 et l'an 1400 a même fonctionné tout un système hydraulique de pointe qui permettait aux populations locales de cultiver au rythme du fleuve dans des forêts qui sont inondés la moitié de l'année.
Et est-ce que tout ce savoir-faire dont vous nous parlez, ça a disparu ?
Certainement pas. Malgré les massacres, épidémies et acculturations, plusieurs centaines d'ethnies vivent toujours aujourd'hui en Amazonie. Il ne faut pas les imaginer comme les derniers témoins d'un passé disparu, mais plutôt comme nos contemporains, dont le mode de vie en harmonie avec la nature est souvent plus à la page que le nôtre, pour répondre aux défis écologiques. Ces hommes et ces femmes ont, la semaine dernière encore, manifesté par centaines lors de la COP30 au Brésil. Mieux on connaîtra l'histoire ancienne et la culture de ces peuples, plus on en tirera de leçons pour mieux cohabiter avec le vivant qui nous entoure. La science souhaite donc aux paysages d'Amazonie de nous laisser lire leur passé plein de solutions pour l'avenir.
Merci à vous, c'était Bill François. La météo arrive tout de suite.
Opération Endgame, ce n'est pas l'intitulé du prochain James Bond, mais le nom d'une opération de police internationale qui vient de s'achever mi-novembre contre les exploitants d'un logiciel de vol de données à distance. Expliquez-nous.
Cette affaire illustre le nouveau monde de la criminalité. Un petit groupe d'individus commercialisait à l'échelle de la planète un logiciel espion baptisé Radamantis, un programme permettant de s'introduire à distance dans les systèmes d'information, VenomRat, et contrôlait un réseau massif d'ordinateurs infectés à l'insu de leurs propriétaires légitimes. Pour identifier les auteurs, il a fallu mobiliser depuis mai 2024 les policiers et les magistrats issus de 11 pays, dont la France, sous l'égide d'Europol et de son homologue dans le monde judiciaire, Eurojust. Une seule interpellation est intervenue en novembre, en Grèce, mais des équipements techniques ont pu être saisis et les serveurs informatiques qui leur permettaient de conduire leurs activités ont été bloqués. L'action des policiers ne s'arrête pas là. Europol a ouvert un site internet dédié à cette opération, www.opérationendgame.com, avec notamment un clip mettant en scène les différentes étapes de cette enquête et affichant les visages et les noms des personnes suspectées de piloter cette organisation criminelle. Le site est accessible en anglais et en russe afin de s'assurer que le message soit bien porté à la connaissance des intéressés.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec nos smartphones et nos ordinateurs, nous sommes tous concernés par cette criminalité. Comment savoir si nos appareils ont été infectés par ces logiciels ?
Catherine, pour répondre à cette question, la police néerlandaise a compilé l'ensemble des adresses e-mail qu'ils ont trouvées dans les dossiers des gestionnaires de ces logiciels malveillants. Ils ont ouvert une page gratuitement accessible en ligne appelée « Vérifiez votre piratage »« Check your hack » en anglais, sur laquelle il vous suffit de mentionner les adresses mail qui vous concernent. Vous recevrez alors dans les 5 minutes un message d'alerte si votre email fait partie des contacts ciblés. Sans nouvelle, c'est que vous n'êtes pas dans leur fichier.
Quelles leçons on peut tirer de cette opération dans le cyberespace ?
Elle démontre tout d'abord que le cyberespace n'est pas une zone de non-droit. Dès lors que les victimes portent plainte, que les États coopèrent, ici principalement des membres de l'Union européenne, dont la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada, et que des acteurs privés, détenteurs de savoir-faire technique, apportent leur contribution. Dans cette affaire, une dizaine de sociétés commerciales ont été amenées à partager leur expertise. Leurs noms apparaissent d'ailleurs aux côtés des services d'enquête nationaux, en France la police nationale, l'unité de cybercriminalité du bureau du procureur de la juridiction nationale contre le crime organisé et la préfecture de police dans le communiqué officiel d'Europol. D'ailleurs, vous trouverez toutes les références complètes sur la page de la chronique Nouveau Monde sur le site ou l'application de France Info.
Nom de code, Endgame, la lutte contre les logiciels espions. Nouveau Monde, Nicolas Arpagian, tous les samedis dans le 17-20 et en podcast donc sur franceinfo.fr.
Minuit 6h, France Info, l'info juste. Le journal des Outre-mer.
Le tribunal de Fort-de-France en Martinique a rendu cette semaine sa décision dans une affaire de déboulonnage de statut. Les faits remontent à l'année 2020. Sur les 11 militants poursuivis, seuls deux ont été déclarés coupables, mais dispensés de toute peine. Maître Alik Labejoff-Lordino, l'un des représentants des militants, salue la décision du tribunal.
Il a bien compris que l'acte posé par ces militants-là était justifié par la symbolique totalement inacceptable de ces statues dans le paysage martiniquais. On ne peut pas accepter que des statues représentant des personnes qui ont encouragé, qui ont participé, qui ont bénéficié de l'esclavage soient toujours mises en avant comme ça dans le paysage martiniquais. Parce qu'il y a une forme d'inaction qui existe toujours. Parce qu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, il y a toujours des statues qui sont problématiques, il y a toujours des noms de rues qui sont problématiques. Et donc, il y a une remise en question globale à mettre en œuvre. Et urgemment, parce que le fait de conserver ces symboles-là à la réflexion globale, à l'émancipation d'un peuple qui a besoin de se reconnaître et de reconnaître ses valeurs.
Autre procès, il a eu lieu cette semaine à Paris, celui de Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de Martinique, qui est accusé notamment d'avoir indûment perçu 67 000 euros d'incitation financière au départ à la retraite. Le parquet a requis jusqu'à 5 ans d'inéligibilité et une peine de prison avec sursis contre le président de la CTM, délibéré attendu le 19 février prochain. Direction la Nouvelle-Calédonie à présent avec ce soulagement pour les habitants de Puébo. Un médecin vient de s'installer au centre médical. Depuis lundi, ils peuvent bénéficier à ces habitants de soins directement dans la commune après plusieurs mois passés sans praticien. Reportage Nouvelle-Calédonie, la première de Brice Bachon.
Après 6 mois sans médecin, c'est le soulagement pour Hilarion, habitant de Puébo.
C'est important d'avoir un médecin pour les gens de Puébo. Parce que ça fait 5 mois ou 6 mois on n'avait pas de médecin. Et puis là, c'est bon, c'est bien.
Qu'est-ce qui vous amène à racontez-moi.
Dans le cabinet, Jean-Pierre, 65 ans, vient renouveler une ordonnance, un acte bénin, mais qui, sans médecin sur place, représentait près de 4 heures de route aller-retour pour aller à Koumak, par exemple.
On est un peu satisfait, là, mais comme le médecin ne va pas rester longtemps ici, il va se... De 6 mois ou 3 mois, puis voilà. Après, ça va être la même galère.
La durée du contrat signé jusqu'à la fin du mois de mars prochain, un contrat court, mais déjà une bouffée d'oxygène pour la population et le sentiment d'être utile pour Pierrick Mao, le médecin.
Je sais que j'étais quand même très attendu ici. Oui, moi, c'est ce que je recherchais, un CMS bien isolé, où il y avait besoin de moi, où je me sens un peu utile.
Un retour à la normale précaire pour les habitants de Puébo, en attendant de savoir si les postes seront renouvelés ou remplacés en mars 2026.
Le premier crématorium animalier de l'île de la Réunion pourrait bientôt voir le jour. Un chef d'entreprise du département a ce projet à cœur. Erwan Poney, Réunion la Première.
C'est une estimation et elle fait état de 300 000 animaux domestiques à La Réunion, des chats, des chiens pour la plupart. Et quand il vient l'heure de rendre hommage à ces animaux de compagnie, les maîtres sont souvent confrontés à la problématique de la sépulture à offrir à leurs compagnons. Le concept d'un crématorium animalier refait donc surface et pour son promoteur Christophe Bigot, le projet est plébiscité par les propriétaires d'animaux et les vétérinaires.
Nous avons eu un retour à 99% d'avis favorables. On a sondé à peu près 5000 personnes, ce qui est quand même déjà important. Et nous avons sondé également l'ensemble des praticiens de la cause animale. L'ensemble des praticiens sont également hyper favorables pour ce projet.
Christophe Bigot est à la recherche d'un terrain pour mener à bien son projet. Un service qui sera facturé à partir de 150 euros pour une incinération et la possibilité de garder ainsi les cendres de son animal de compagnie.
Coût estimé de l'investissement, 1 500 000 euros. Edwige Saint-Thomas, Outre-mer la Première pour France Info.
J'ai testé pour vous.
Comme tous les week-ends, Ingrid Pohu qui expérimente les nouvelles tendances loisirs. Aujourd'hui, Ingrid, vous êtes allée voir de drôles d'animaux de très très près.
J'ai testé pour vous le safari du parc animalier Planète Sauvage à Port-Saint-Père, près de Nantes.
Donc je suis Juliette Fontaine, je suis guide animalière à Planète Sauvage.
Qu'est-ce que c'est que cette voiture-là ?
On est dans un Land Rover.
On a 80 hectares à Planète Sauvage.
Qui sont exploités pour la piste safari et la zone piétonne. Donc ça fait des très grandes plaines pour nos animaux.
Et l'équipe est sauvage, on est
8. Mais au moins vous allez vous tenir chaud, hein, moi je vous le dis. Et de toute façon, on part pour l'Afrique. Avec nos rhinocéros là-bas. Il est en train de se s'aiguiser la corne là-bas.
Ah, okay. Il a un petit prénom, le rhinocéros ?
Alors oui, là on a Dinari juste devant nous. Il a 12 ans et c'est le plus gros. Et il fait 2,5 tonnes. C'est l'une des espèces les plus braconnées au monde à cause des deux cornes qu'ils ont au bout du nez, qui sont faites de la même matière que vos ongles et vos cheveux, c'est de la kératine. Le problème, c'est que c'est selon certaines croyances, dans certains pays asiatiques, si vous mangez cette corne de rhino réduite en poudre, bien soit vous allez faire plus de bébés, soit vous allez guérir de certaines maladies. C'est bien sûr complètement faux.
Alors là, on a carrément les girafes qui passent devant nous, devant la voiture. Salut les filles! Je tends le bras quasiment et je peux la caresser. Ah, elle passe la langue.
Regardez, hop là! Oh, génial! Donc l'impala, on l'appelle le McDo de la savane en Afrique du Sud.
Quelle horreur!
Ouais, c'est horrible. Et parce qu'elle se fait manger par tout le monde. Et voyez donc les trois traits noirs sur les fesses, c'est ce qu'on appelle un follow me sign, un signe suivez-moi en anglais. S'il y a un prédateur, on regarde les fesses en face de nous, on va retrouver son groupe. Heureusement que nous on fait pas ça.
Faut vrai qu'on ait les fesses à l'air déjà.
Là, on a nos deux tigresses, là.
Tigre de Malaisie. Hein.
C'est deux sœurs, Sita et Kara.
Deux sœurs qui se font un petit câlin. Magnifique. Sous un rayon de soleil, l'amour existe encore.
On y croit. Les ours noirs, là, ils font 150 kilos. On a Casca et ses trois petits.
Ça fait très booba, mon petit ourson. Je sais pas si vous avez la ref. Chantal Goya.
Si, et on avait un ours avant qui s'appelait Booba.
Alors ça, c'est une info.
Une exclue.
Les zèbres n'ont pas des rayures noires, mais en fait, ils ont des rayures blanches.
Exactement. On aurait tendance à dire que c'est le contraire, mais en fait, le petit embryon, quand il se développe, il est tout noir. D'accord. Et au fil de la gestation, il développe les rayures blanches. C'est fou, hein.
Et ben là, il y a un lama qui est planté au milieu de la route. Salut.
Mais on évite de se faire cracher dessus. Alors, ils ne crachent pas de la salive, hein, les lamas. Ils vont cracher du vomi.
Ah,
c'est le contenu de leur premier estomac, comme c'est des ruminants.
On a vu des choses incroyables. Et merci pour toutes ces anecdotes.
Ah bah, j'en ai encore plein. Oh, on a un pan qui fait la roue là-bas. Regarde, on va s'arrêter là.
Hop. À vous de tester.
Ingrid Pohu, j'ai testé pour vous. C'est à réécouter comme d'habitude sur franceinfo.fr et sur l'application Radio France.
Le vrai ou faux junior.
Le vrai ou faux junior, maintenant, tous les samedis, France Info vérifie ce qui circule sur les réseaux sociaux avec des ados. Bonsoir Valentine Joubin.
Bonsoir.
Cette semaine, vous êtes avec les élèves du collège Jules Ferry de Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est dans l'Essonne. Et ce qui a retenu leur attention, Valentine, ce sont les images impressionnantes d'une explosion en mer.
Oui, c'est une vidéo publiée par Donald Trump au début du mois. On y voit l'armée américaine frapper un bateau en mer des Caraïbes. Le navire en feu est totalement détruit. Au-delà de la violence des images, ça soulève beaucoup de questions, comme celle d'Elena.
J'ai vu sur internet que Donald Trump faisait exploser des bateaux venant de Colombie pour résoudre le trafic de drogue. Donald Trump a-t-il le droit de faire exploser des bateaux et donc de tuer de nombreuses personnes ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis le début du mois de septembre, les États-Unis ont mené une vingtaine de frappes aériennes dans le Pacifique, des tirs contre des bateaux qui appartiendraient, selon les autorités américaines, à des narcotrafiquants. D'après un décompte de la radio publique américaine, entre le 2 septembre et le 15 novembre, plus de 80 personnes ont été tuées et une vingtaine de navires détruits. Tu parles de la Colombie, Elena, il y a effectivement des victimes colombiennes, mais Donald Trump a surtout parlé de bateaux venus du Venezuela.
Le président américain fait la guerre au cartel vénézuélien de la drogue.
Oui, il affirme que les bateaux visés contenaient de la drogue, de la cocaïne surtout, à destination des États-Unis, sauf qu'il n'en a jamais apporté la preuve. Alors pourquoi ne pas demander aux gardes-côtes d'arraisonner ces navires pour justement les fouiller ? Voici la réponse de Donald Trump.
On a arrêté des bateaux pendant des années, et ils réintègrent le système, et ils recommencent sans cesse. Cela ne les effraie pas, ils n'ont peur de rien.
La solution, donc, pour le président américain, c'est de tirer.
Mais est-ce qu'il en a le droit, comme le demande Elena ?
Non. Les frappes américaines dans les Caraïbes et le Pacifique sont contraires au droit international, c'est ce qu'a déclaré Volker Türk, le représentant aux droits de l'homme de l'ONU. Le recours à une arme létale, une arme qui tue, dit-il, n'est légal qu'en dernier recours et lorsqu'il y a une menace pour la vie d'une ou de plusieurs personnes. Rien ne prouve que ces bateaux représentaient une telle menace. L'ONU a donc appelé les États-Unis à cesser ces frappes et à lancer une enquête rapide, indépendante et transparente sur les tirs déjà menés.
Donald Trump et son interprétation du droit international, le vrai ou faux, j'ignore. Valentine Joubin, à retrouver bien sûr en podcast sur le site de France Info, franceinfo.fr.
Les experts culture.
Quel film aller voir au cinéma ce week-end si vous n'êtes pas emballé par les nouveaux blockbusters américains comme Running Man ? Suivez les conseils de notre expert ciné, Matteo Maestracci. Bonjour Matteo.
Bonjour, j'ai bien aimé Running Man.
C'est vrai ? Oui. Ça a l'air plutôt bien. On ouvre en tout cas cette semaine avec le dossier 137, le nouveau film de Dominique Moll.
Bonjour Monsieur Cordier, je suis le commandant Bertrand de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Nous enquêtons sur les circonstances qui ont mené à la blessure de Guillaume Girard samedi dernier.
3 ans après le triomphe de La Nuit du 12, qui avait remporté 6 Césars, dont celui du meilleur film, Dominique Moll s'intéresse encore à la police par la fiction, mais regarde cette fois du côté de l'IGPN, qu'on appelle aussi la police des polices, chargée d'enquêter sur les siens, après ce qui ressemble ici à des violences policières injustifiées en marge d'une manifestation de gilets jaunes à Paris. Une enquête que Stéphanie Léa Drucker va prendre d'autant plus à cœur que le jeune homme, grièvement blessé à la tête par un tir de LBD, vient de la même ville qu'elle, en Haute-Marne, et après la police judiciaire dans La Nuit du 12. Ce sont donc les coulisses du travail de l'IGPN qui ont intéressé cette fois Dominique Moll, réalisateur.
C'est une institution qui est décriée à la fois de la part des policiers qui disent que l'IGPN c'est des traîtres et qui donnent une mauvaise image de la police, et de la part de certains médias qui leur reprochent d'être jugés partis et de mal faire leur travail. Donc ils sont dans une position très inconfortable, et ça m'intéressait de me dire, tiens, si le personnage principal est justement enquêteur ou enquêtrice à l'IGPN, ça peut être une piste de départ intéressante. Ça m'intéressait de voir des policiers enquêter sur des policiers.
Tu parles correctement, s'il te plaît.
Et vous les avez retrouvés ? Les flics, là, qu'on fait ça, vous les avez retrouvés ?
Monsieur Cordier, c'est nous qui posons les questions.
Parce que vous allez me croire.
Et après, dans les faits, c'est pas l'IGPN, enfin, c'est dit dans le film aussi, qui décide de mise en examen ou de condamnation. C'est comme dans une enquête de police judiciaire normale, c'est le parquet. Mais le fait est qu'il y a quand même peu de mise en examen et peu de condamnation. Donc ça leur retombe dessus, même s'ils ont finalement bien fait leur travail et livré un dossier bien ficelé.
Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble ? Je sais plus, moi.
Extrêmement précis grâce à un montage rythmé de chaque étape de cette enquête, dossier 137 brille par son aspect pédagogique, presque documentaire, et un parti pris qui réussit habilement à être empathique avec le manifestant blessé tout en montrant que les policiers qui dérapent existent mais sont minoritaires. Et puis ai-je besoin de préciser que dans le rôle principal, Léa Drucker est encore une fois magistrale.
Et qu'il faut lui donner un César pour l'ensemble de son œuvre cette année.
Oui,
je le dis aussi.
Après celui pour Jusqu'à la garde.
Exactement. Autre film français à voir cette semaine, selon vous Mathéo, Des preuves d'amour, réalisé par Alice Douard.
Premier long métrage qui prolonge son cours L'attente de 2022 et un récit autobiographique, soit un couple de femmes trentenaires, Nadia et Céline. La première, jouée par Monia Chokri, est enceinte et sa compagne, qu'interprète Ella Rumpf, nous sommes peu après le vote de la loi Taubira, mariage pour tous, de 2013. Sa compagne doit prouver à l'administration française qu'elle veut et peut adopter cet enfant à naître, notamment via 15 témoignages authentiques de proches en sa faveur, les fameuses preuves d'amour. Tout en encaissant les commentaires souvent maladroits de son entourage ou de ses interlocuteurs, Monia Chokri a aimé la représentation de ce couple.
C'est le parcours d'un couple normal, voire ordinaire,
qui, par leur statut politique et social, et par leur désir d'avoir un enfant, vont avoir un parcours extraordinaire, un parcours du combattant. Encore aujourd'hui, quand on raconte des histoires LGBTQIA+, je trouve qu'il y a une tendance à être un peu folklorisant dans la manière de dépeindre ces êtres humains-là, donc dans leur côté un peu extravagant, dans le côté un peu fête, dans le côté un peu gay pride.
Vous avez fait comment alors ?
Ben, on a fait l'amour ?
Ah, ben oui, non.
C'est une fille ?
Oui.
Ah, c'est bien, tant mieux.
T'as pas peur d'être jalouse ?
Jalouse de quoi ?
Et qu'en fait, ce qui est beau là, c'est que c'est vraiment un couple de femmes tout à fait normal. C'est là où on sent tout l'attachement aussi qu'on peut avoir et l'empathie et la résonance avec le fait que finalement, ce qu'on peut imaginer de différent de nous est plutôt assez similaire.
Et il est qui ce bébé ?
C'est moi le papa, ça toi ?
On fait ça ensemble. Que ce soit toi ou moi, c'est pareil.
Avec des petits défauts qu'on retrouve dans la plupart des premiers films, des preuves d'amour touchent par sa justesse ou son humour inattendu et en future mère qui cherche sa place et la Rumpf après Grave où le théorème de Marguerite prouve à nouveau son grand talent. Enfin, je vous conseille le magnifique documentaire Pompéi sotto le nuvole et Pompéi sous les nuages réalisé par Gianfranco Rosi qui raconte dans un très beau noir et blanc l'histoire de ce territoire napolitain devenu culte dès l'Antiquité à travers ses paysages ou ses habitants.
Merci beaucoup Mathéo pour ces propos. On vous retrouve la semaine prochaine, vous ferez de nouveau irruption dans ce studio pour vos beaux conseils. Bonne semaine à suivre la météo et le journal de midi.
France Info, la nuit, l'info revient dans un instant. Uno, dos, cuatro, hit it!
Put some junkie, y'all. She's in the superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. That girl's gonna make me fall. Here we go! She's into new sensations, new kicks in the kind of light. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll take away your pain.
Drinks the water, makes you wanna drink champagne. Drink, drink, drink. And once you've had a taste of her, you'll never be the same. Yes, she'll make you go insane.
from Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, haunted me so.
France Info.
L'info juste.
Il est 4h30, les informations, Héloïse Roger. Des milliers de personnes rassemblées à Marseille aujourd'hui pour lutter contre le narco-banditisme et pour rendre hommage à Mehdi Kessassi, assassiné la semaine dernière. Son frère, militant anti-drogue, était devant, en tête de cortège avec sa mère. Elle demande au gouvernement de prendre la mesure de tout ce qu'il se passe. Trop d'innocents tombent et sont déjà tombés à cause du narcotrafic, a-t-elle déclaré. 6000 personnes étaient rassemblées ce samedi, selon la police, 10 000 selon les organisateurs qui veulent que le combat continue. Des manifestations également dans d'autres villes de France. 300 personnes se sont rassemblées à Nantes. Ils étaient 250 à Montpellier. 300 également à Avignon et une centaine à Auxerre. Plusieurs mobilisations aussi hier contre les violences faites aux femmes. À Paris, 50 000 personnes étaient réunies. Cette semaine, 4 femmes sont mortes, tuées par leurs compagnons. À Sedan, en Ardennes, un homme a été mis en examen pour meurtre sur conjoint ce samedi et placé en détention provisoire. Il a reconnu avoir tué sa femme, une enseignante de 56 ans. Ils font front contre le géant chinois du commerce en ligne, Shein. Plus de 80 députés réclament l'interdiction de l'enseigne sur le territoire français. Dans un texte publié aujourd'hui dans la Tribune dimanche, ils évoquent la nécessité de protéger les travailleurs, la santé publique et la planète. Depuis près de 3 semaines, la marque asiatique s'est installée au BHV à Paris. De leur côté, plusieurs fédérations du commerce et des enseignes ont déposé une action en justice pour dénoncer la concurrence déloyale. C'est un texte salué par l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud ou encore le Brésil, pays hôte. La COP 30 n'a pas joué les prolongations trop longtemps. Un accord a été trouvé ce samedi du côté des pays européens qui l'ont tout de même signé. Les avis sont mitigés à cause notamment de l'absence d'un véritable plan de sortie des énergies fossiles. Les petits États insulaires saluent eux un texte imparfait mais nécessaire. Une COP 30 qui en remplace une autre pour la 31e. Un accord a été trouvé entre la Turquie et l'Australie qui souhaitaient toutes les deux accueillir le sommet climatique l'an prochain. C'est finalement à Ankara que se déroulera l'événement. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été emprisonné, accusé d'avoir tenté de casser son bracelet électronique pour s'évader. L'ancien chef d'État d'extrême droite a été condamné en septembre dernier à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Il est en résidence surveillée depuis plusieurs mois. Dans une vidéo qu'il a publiée, il dit avoir utilisé un fer à souder pour ouvrir son bracelet électronique. Un geste réalisé par simple curiosité, selon lui. Le PSG reprend la tête du classement de Ligue 1 après avoir battu hier le Havre 3-0. Lens s'impose également à domicile 1-0 face à Strasbourg. Monaco, lui, s'est incliné à Rennes 4-1.
Minuit, 6h, c'est la nuit sur France Info.
Portrait d'actu.
Elle a seulement 10 ans de carrière et 28 ans. Elle rassemble déjà 11 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est l'influenceuse française la plus connue dans le monde et ça ne doit pas s'arrêter de sitôt car Lena Situations publie un nouveau livre. Elle lance aussi un nouveau podcast en seulement 10 ans de carrière. Celle qui partage tout avec ses abonnés, les coulisses de sa vie et de la mode, a tout vécu, le meilleur comme le pire. Portrait signé Anne Lamotte.
Il n'y a pas que la mode qui a compté jusqu'ici dans la vie de Léna Situation. Certes, quand elle est petite, elle grandit dans les chutes de tissus. Sa mère est styliste et couturière. Léna la regarde faire. Elle tombe amoureuse des vêtements. Et puis quand c'est la Fashion Week à Paris, elle sèche les cours pour essayer de s'incruster dans les défilés. Mais il y a aussi...
T'aimais bien le foot ?
J'adorais le foot.
Le ballon rond, donc. Léna Situation, de son vrai nom Léna Mafouf, est ici l'invitée de Mafouf Actu, un compte tenu par des admirateurs. On lui montre une photo d'elle, en rayures rouge et bleu, le pied sur le ballon. Elle a quoi ? 10 ans ?
Ça a été une longue période de ma vie. C'était une période de ma vie où on me considérait comme garçon manqué, terme qui a, j'ai l'impression, un peu disparu depuis parce que j'ai pas l'impression d'avoir manqué de quoi que ce soit. J'étais plutôt bon goal, parce que j'avais pas peur de la balle. Du coup... tu peux me la balancer en pleine gueule. Et je lui dirais que c'était un bon exercice parce qu'au final, on me lance plein de balles dans la gueule toute la journée et j'essaye de les rattraper, de les renvoyer. Donc finalement, c'est une belle métaphore de ce qui m'attendait sur les réseaux sociaux plus tard.
Oui, car depuis 2015, depuis sa première vidéo sur YouTube, Léna Situation ne compte plus les campagnes de cyberharcèlement dont elle a été la cible. Elle montre trop ou pas assez, ses seins sont trop petits, ses cuisses trop grosses, ses cheveux trop courts, trop frisés, comme ce qu'on lui balançait déjà à l'école. On a jeté des œufs sur le paillasson de sa mère, appelé sa grand-mère jusqu'en Algérie. L'influenceuse en a quitté Twitter. Elle en a pleuré, comme ici au téléphone avec un ami. On est en 2022.
Tu vois, quand on est venu chez ma mère, comment j'avance, tu vois, comment je... Il y a plein de choses, je peux plus les partager parce que j'ai peur que je me fasse tuer dans la rue ou j'ai peur que... Au pire, qu'il vous arrive quelque chose à vous, à mon frère et tout, t'imagines, tu vois.
Oui, je sais.
Je me sens seule de ouf. Plus je suis suivie, plus je me sens seule.
Mais elle en a souri aussi.
Je vous ai fait un petit best-of. Les femmes de nos jours, bande de salopes. Je suis énervée, elle est conne ou quoi cette pétasse ? Comment ? J'ai envie de lui mettre des bonnes grosses droites dans sa gueule à celle-là ? Je lui aurais envoyé un crochet dans la gencive, sérieux. Mais mettez-la au cachot, cette immense pute !
En fait, Léna Situation, l'authentique, montre tout. Les très hauts et les très bas. Elle est parfois en paillettes, parfois en pyjama. Elle affirme que c'est sans calcul et on la croit.
Moi, je fais les choses et je réfléchis après. C'est ma spécialité. C'est spontané chez moi. Hein.
Elle est ici au Paris Podcast Festival.
Donc mes proches, ils sont un peu fatigués de WAM. Mais là, si tu veux revenir dans l'enfance, moi, on m'a dit, enfin, ils ont dit à mes parents, celle-ci, elle est hyperactive. Bon courage.
En effet, en seulement 10 ans, la liste des choses que Léna Situation accomplit est impressionnante. Elle vend son premier livre à plus de 500 000 exemplaires. Pour le deuxième, elle crée carrément sa maison d'édition. Son premier podcast est un carton, le nouveau part sur de bonnes bases.
I hope you're well seated on the couch.
La première invitée s'appelle Rihanna. Elle lance sa marque de vêtements. Au défilé, on la réclame au premier rang. Les maisons de luxe s'arrachent son nom ou son expertise. Le prestigieux Met Gala à New York l'invite. Du jamais vu pour une influenceuse française. Et ce, deux fois.
Non.
Léna Situation fait aussi récemment la une du magazine Forbes. En 2021, le New York Times écrit déjà sur elle « une star aînée ». Elle décroche même l'interview d'Anna Wintour, papesse de la mode. Et, faut-il le rappeler, elle réunit 11 millions d'abonnés et elle n'a pas 30 ans. Et pourtant, celle qui ne sait pas mentir l'avoue, elle a encore l'impression de ne pas être à sa place.
Tu vois, je vis avec un syndrome de l'imposteur où j'ai constamment l'impression que vous êtes trompé de m'avoir... Écoutez-moi, vous êtes trompé d'avoir regardé ma vidéo, de m'avoir pris moi pour aller au Met Gala. J'ai toujours l'impression qu'il y a une erreur, qu'ils m'ont mis en copie d'un mail qu'ils n'auraient pas dû faire et que maintenant c'est trop tard pour dire bah merde, vas-y, on l'invite tant qu'elle est là. Tu vois, j'ai constamment cette impression et c'est vraiment là, au plus profond de moi, j'ai ce côté où je me dis, c'est arrivé très vite, j'ai encore un peu du mal à comprendre pourquoi je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas actrice. Tout ce que je fais, c'est des vidéos sur YouTube. Et même si j'essaie d'ouvrir des discussions, même si j'essaie d'être une bonne influenceuse et d'avoir un bon message à envoyer, à la fin de la journée, moi, je fais des vidéos sur YouTube.
Et humble donc avec ça.
Le portrait d'actu de Léna Situation signé ce matin, Anne Lamotte, à retrouver sur franceinfo.fr.
Le rendez-vous de la médiatrice.
Richard Place, bonjour.
Bonjour.
Il y a une semaine, la criminalité liée au trafic de drogue a franchi un nouveau seuil avec le meurtre du frère d'Amine Kessassi, engagé dans la lutte contre la drogue. Depuis, le narcotrafic est évoqué chaque jour sur l'antenne. Alors comment la rédaction s'organise pour couvrir un sujet aussi complexe et multiforme ?
Alors d'abord, sur cette affaire précise, nous avons réagi très rapidement grâce à Mathilde Vinceneux, notre correspondante à Marseille, qui nous a averti très tôt de cet assassinat. Nous avons donc pu avoir le maire de Marseille très rapidement à l'antenne. Nous avons eu aussi très vite le procureur de Marseille dans la matinale du lendemain. Et puis nous avons couvert toute l'évolution de ce sujet jusqu'à l'interview d'Amine Kessassi lui-même. La première interview qu'il a donnée, c'est à nous, à France Info, sur YouTube, notre programme pour info, où il s'est confié longuement. Je vous invite à écouter ce témoignage qui est très fort. Et puis bien sûr, notre service police-justice entièrement mobilisé pour couvrir cette affaire, cette enquête et raconter ce fait divers qui est bien plus qu'un fait divers, mais un vrai fait de société aujourd'hui en France.
Alors justement, comment la rédaction donne-t-elle une vision équilibrée du phénomène qui ne repose pas uniquement sur un aspect criminel ? Je vous lis le message d'un auditeur. Il nous dit « Depuis plusieurs jours, vous parlez du thème de la lutte contre le narcotrafic sous l'angle des réseaux et des criminels, mais vous n'abordez pas la question du consommateur de drogue. Or, ils sont de plus en plus nombreux et dans toutes les strates de la société. Et, nous dit cet auditeur, pas de consommateur, pas de trafic. Richard Place, avez-vous traité cet angle ? »
Oui, bien sûr. Et nous l'avons traité notamment par un reportage qui me revient à l'esprit de Philippine Thibaudeau, qui est allée à la rencontre de deux consommatrices, un peu celle que Emmanuel Macron a pointé du doigt en parlant de ces bourgeois qui font le narcotrafic, des gens qui sont plutôt confortables financièrement et qui racontaient leur consommation quotidienne et auprès de qui ils se ravitaillent, qui sont leurs dealers. On a pu donc raconter ça et la mauvaise conscience de ces consommatrices en l'occurrence, même si au final elles consomment quand même. On a aussi raconté la détresse de ces femmes SDF qui sont hébergées dans une maison à Lille. C'est un reportage d'actualité. Agathe Mahué, la maison Corinne Massiero, des dames qui consomment du crack pour la plupart, qui sont en énorme situation de fragilité. Donc oui, nous avons parlé des consommateurs de drogue et sous diverses formes.
Au sujet de la dépénalisation, un auditeur nous écrit, alors son point de vue sur le sujet n'engage que lui, je vous lis le message, sur les drogues et l'insécurité qui en résulte, pourquoi France Info n'aborde jamais la solution pour remédier à cette insécurité, à savoir la fin de la prohibition de toutes les drogues. Puisqu'il y a des consommateurs, l'État organiserait à son profit la vente de drogues. Les avantages de cette pratique sont énormes, nous dit cet auditeur. Orienter le flux financier du marché des délinquants vers l'État, fin de l'insécurité des points de deal, suivi des consommateurs à qui on pourrait proposer des parcours médicaux pour sortir de leur addiction, et donc diminution du nombre de consommateurs. Richard Place, ce sujet a-t-il été abordé ? Et le service public a-t-il une responsabilité particulière s'il évoque la dépénalisation ?
Non, le service public a surtout la responsabilité de donner la parole à tout le monde dans ce débat. Et ce que pointe en tout cas cet auditeur, c'est aussi un sujet évoqué par les élus, par des députés. Donc oui, nous avons parlé de cela. En même temps, la question de la dépénalisation ne se prête pas à toutes les drogues. Il n'est pas question de dépénaliser la cocaïne ou le crack, par exemple. Pas du tout dans la société française actuellement, en tout cas parmi les élus. Donc nous ne parlons pas de cette dépénalisation-là. Mais la question de la dépénalisation des drogues douces, comme l'on dit, parfois... Oui, c'est un sujet que l'on évoque parce que, notamment pour les questions économiques qu'évoque cet auditeur, le sujet se pose et qu'on sait que dans certains pays, et nous avons fait du reportage dans ces pays-là, on a fait ce choix-là dans certains États américains notamment.
On termine avec cette question qui revient fréquemment dans les messages. Le traitement de sujets sur le narcotrafic entraîne-t-il des risques pour les journalistes en termes de sécurité, de menaces ou de difficultés d'accès aux sources ?
L'affaire Amine Kessassi, le fait que son frère ait été abattu pour l'atteindre lui, vraisemblablement, nous alerte tous, même si nous étions déjà en alerte sur ce sujet-là, avec notamment les journalistes du service police-justice. Oui, il y a actuellement un narcotrafic qui prend de l'ampleur en France et des narcotrafiquants qui sont sans foi ni loi. On a aussi beaucoup parlé sur l'antenne de France Info de ces jeunes assassins qui, parfois, pour des sommes assez ridicules, sont prêts à tuer n'importe qui. Oui, il y a une vraie question de sécurité pour les gens qui couvrent cette actualité-là et nous y veillons à France Info.
Merci Richard Place.
Merci.
La nuit sur France Info, minuit 6h.
France Info Monde. France Info Monde est aux États-Unis ce soir. Bonsoir Anne Souhaitement.
Bonsoir.
Directrice de l'Info Internationale de Radio France. Alors cette semaine, plusieurs figures trumpistes ont émis des doutes sur la politique menée par le président américain. On peut même parler de division au sein du camp MAGA sur fond d'affaires Epstein, à tel point que Donald Trump a rompu publiquement avec Marjorie Taylor Greene, l'une des figures du mouvement Make America Great Again. Les Américains la connaissent bien, nous ici en France, un peu moins. Qui est-elle, Anne? Parlez-nous d'elle.
Alors, jusqu'à encore quelques semaines, cette élue de Géorgie à la Chambre des représentants était une fervente trumpiste, une dure des dures. Trump a raison sur tout, pouvait-on lire sur sa casquette rouge. Quinca, antisocialiste, anti-vax, bête noire de la gauche, grande gueule, pro-arme, femme d'affaires, blonde, complotiste, virée de Twitter comme son mentor, Marjorie Taylor Greene était en quelque sorte le portrait robot du parfait trumpiste. Depuis l'élection de Joe Biden et avant le retour de Donald Trump, elle incarnait la radicalité de la mouvance MAGA, celle qui avait fait de l'outrance et de la défense coûte que coûte de l'Amérique d'abord un argument politique.
Mais petit à petit, elle a pris ses distances avec Donald Trump, comme l'a fait l'électorat trumpiste d'ailleurs.
Et oui, soutien à l'Ukraine, frappe contre l'Iran, escalade avec le Venezuela. C'est sur les sujets de politique extérieure que Marjorie Taylor Greene a commencé à faire entendre une autre voix. Elle est aussi d'ailleurs l'une des seules républicaines à parler de génocide à Gaza dans sa ligne de mire. Un Trump qui délaisserait trop le fameux America First. Mais la question du pouvoir d'achat a aussi vite alimenté ses critiques ces dernières semaines. Marjorie Taylor Greene a donc fini par devenir une voix dissonante au sein d'un parti républicain. Jusqu'ici totalement inféodé au président. Longtemps, Donald Trump n'a rien dit, espérant sans doute que cela pourrait se calmer. C'était sans compter sur l'affaire Epstein. Après avoir été lâché par Trump la semaine dernière car trop critique, Marjorie Taylor Greene a fait bouger cette semaine les équilibres au Congrès jusqu'à permettre un vote quasi unanime pour rendre public tous les documents. Bref, c'est l'histoire d'une groupie devenue traîtresse en quelques jours.
Mais pourquoi une rupture sur l'affaire Epstein en particulier ?
Alors, on vient d'en parler, les ingrédients d'une rupture étaient déjà là. Mais l'affaire Epstein est venue titiller quelque chose dans la base trumpiste. L'affaire Epstein, du nom de ce financier new-yorkais accusé d'exploitation sexuelle de mineurs, dont aurait pu être au courant Donald Trump, elle serait, selon Marjorie Taylor Greene, le crime d'une élite contre les femmes, femmes dont elle est devenue la défenseure numéro un. Et la rupture va plus loin encore. Depuis quelques semaines, Marjorie Taylor Greene semble avoir changé de ligne politique. Invitée de CNN, elle a surpris tout le monde en présentant ses excuses pour avoir participé par des propos outranciers, violents ou encore insultants à une politique toxique. L'Amérique doit s'unir, a-t-elle expliqué, assurant avoir cheminé depuis l'assassinat de Charlie Kirk. Alors de là à y voir une volonté de s'émanciper du mentor pour qui sait jouer sa carte dans les années à venir, au midterms l'an prochain, voire à la prochaine présidentielle, certains y croient. Ce qui est sûr, Catherine, c'est que la base MAGA se fissure et que Marjorie Taylor Greene a lancé le mouvement.
Derrière la rupture entre Donald Trump et Marjorie Taylor Greene, l'inquiétude du camp MAGA. France Info Monde, Anne Souhaitement, tous les samedis sur France Info et en podcast sur franceinfo.fr.
Info immobilier.
Parlons immobilier maintenant. Bonsoir Olivier Marin.
Bonsoir Catherine.
Il est désormais possible, à titre privé, de soutenir des projets qui intègrent des critères sociaux et environnementaux. C'est ce qu'on appelle l'immobilier social et solidaire. Comment ça marche ?
Alors oui, hein, il est possible d'investir dans l'immobilier sans penser profit, rentabilité, mais plutôt intérêt général. Donner du sens à son épargne, c'est investir dans un immobilier responsable et à impact. C'est une tendance et des modèles qui se développent de plus en plus. Alors, il existe des foncières dédiées. Ce sont des sociétés qui collectent des fonds auprès d'investisseurs publics et privés pour acheter et rénover des biens immobiliers qui sont ensuite transformés en nouveaux lieux de vie ou loués à des personnes en difficulté, familles monoparentales, jeunes en insertion, etc., à des loyers abordables et adaptés.
Et quelles sont ces foncières solidaires ?
Alors, il y a par exemple Belleville, qui a été créée par des jeunes ingénieurs, soutenue par des institutionnels, mais aussi des particuliers. Belleville permet de réhabiliter des immeubles vides, des commerces se désaffecter pour les transformer en logements, en lieux partagés, en ateliers ou en espaces d'activité. Des opérations sont menées, notamment à Toulouse, Saint-Denis, Marseille, Valenciennes, Albi ou encore Le Havre. Et puis dans le même esprit, il y a Village Vivant qui rachète et rénove des locaux vacants dans les campagnes pour y installer des commerces et des lieux de vie. Alors c'est financé par l'épargne citoyenne, accessible pour les particuliers à partir de 100 euros, avec à la clé une réduction d'impôts et des rendements modérés et surtout une utilité locale. locale. Village Vivant a déjà ouvert plus de 30 lieux, des cafés, boulangeries, des épiceries, des tiers-lieux dans 13 départements.
D'autres foncières existent ?
Oui, alors parmi les autres foncières, il y a Caritas Habitat, qui est une foncière à vocation sociale. Il y a Habitat et Humanisme, plus connu, qui a déjà plus de 10 000 actionnaires. Il y a La Main, foncière culturelle. Il y a Fratrie, il y a Bien Commun. Et puis, cette semaine, a été lancée par la métropole de Lyon la coopérative Logement d'abord. C'est une foncière dont la signature est repérer, acquérir, réhabiliter, pour ensuite proposer des logements accessibles avec des loyers adaptés. Et la métropole s'est associée au mouvement Solidarité Nouvelle pour le logement.
Et est-ce qu'il va y avoir d'autres initiatives prochainement ?
Oui, alors il y a des collectes en cours et à venir. Investir dans l'immobilier solidaire, c'est plus qu'un simple placement. C'est vraiment contribuer concrètement à des projets utiles aux habitants avec un ancrage local, tout en préservant, voire en valorisant le patrimoine. Et donc, en ce mois de novembre, il y a des initiatives dans le domaine pour la finance solidaire. Parmi les rendez-vous, il y a la KISS, la Kermesse de l'immobilier social et solidaire, qui se tient à Paris le 27 novembre prochain. Des tables rondes, des ateliers, des rencontres avec les acteurs de cet immobilier solidaire. L'occasion de s'informer et peut-être de participer à l'essor de ces modèles qui mêlent immobilier et solidarité.
Pourquoi et comment investir dans l'immobilier social et solidaire ? Olivier Marin du Figaro Immobilier. Info Immobilier, c'est tous les samedis sur France Info et en podcast, bien sûr, sur franceinfo.fr.
L'Empire des séries, Laurent Vallière.
Des zombies pas comme les autres, comme vous et moi. Pour sa première série après Breaking Bad et Better Call Saul, le créateur américain Vince Gilligan revient à la science-fiction. Lui qui avait débuté en écrivant des épisodes de X-Files et fait de la Terre entière, ou presque, des zombies.
Bonjour Carole. Peut-on faire quoi que ce soit pour vous redonner le sourire ?
Une étrange onde martienne atteint la quasi-totalité de la population et nous rend gentils et soumis. Tous, sauf 12 personnes, dont l'héroïne Carole.
Bonjour Carole !
Bonjour Carole !
Tout ce qu'on veut, c'est votre bonheur.
Et ce n'est pas pour le meilleur des mondes. L'idée est venue naturellement à Vince Gilligan.
Ça fait 23 ans que je n'avais pas écrit pour des personnages héroïques. Mulder et Scully dans X-Files étaient des héros. Ils en bavaient vraiment pour essayer de sauver le monde. Après, au début des années 2000, je me suis un peu lassé. J'ai eu envie de faire quelque chose de différent, écrire pour des anti-héros. Ça a été Walter White, Saul Goodman et tous ces mauvais gars qui n'ont aucune intention de rendre le monde meilleur, mais seulement de gagner de l'argent pour eux-mêmes. Mais aujourd'hui, j'en suis un peu fatigué. Et puis, regardez le monde autour de nous. Je me suis dit, est-ce que le monde a le plus besoin de personnages bons ou mauvais ? Et la réponse est simple, de personnes qui font le bien.
L'héroïne est donc Carole, autrice de romans à succès en plein doute, une romancière avec du tempérament, Vince Gilligan.
Pour moi, Carole ne cherche pas à devenir une héroïne. C'est une héroïne imparfaite. Elle a énormément de défauts, mais elle veut rendre le monde meilleur. Elle veut réparer le monde. Et pour moi, c'est ça qui fait un héros.
J'ai juste une question. Bien sûr, que voulez-vous savoir ? Comment j'annule tout ça ?
Au cours des épisodes, la série surprend aussi par le temps qu'elle prend. On croirait presque de la slow TV. Et c'est exprès, Vince Gilligan.
Oui, j'aime les séries qui avancent un peu plus lentement. Nous vivons maintenant dans un monde très rapide. Il y a TikTok et YouTube. Et on vous dit, attention pour les jeunes maintenant, il faut tout faire tenir en 10 secondes. Plus personne n'a de capacité d'attention. Or, pour moi, c'est faux. Et Pluribus s'adresse à un public qui veut ralentir un peu.
Soyez tranquille, Carole. On va découvrir ce qui vous distingue.
Le découvrir, pourquoi ?
Afin que vous nous rejoigniez.
Pluribus, des épisodes vraiment surprenants, la plus belle idée de série de l'année, à découvrir sur Apple TV.
Kibritler burada, alt katta banyoda. Hep bir olay var da, olan hiçbir şey yok. Kazan hep kaynıyor, kapta yemek yok. Bak Çin'de açlık var, önündekini bitir. Çok garip, çok. peculiar mama.
Ces chansons qui font l'actu, Bertrand Dical.
Louane est de nouveau sur la route, seule sur la scène de salle au format Zénith, selon la formule qu'elle a inaugurée en 2023 avec sa tournée Le Club des Sentiments. L'artiste avec ses claviers, ses guitares, ses machines et ses chansons que son public aime chanter avec elle. Et son dernier album, titré évidemment Solo et paru en octobre 2024, a marqué une étape importante puisqu'elle l'a écrit tout entier, y compris un single qui a fait frissonner les fans puisqu'il s'agit d'un duo avec Pégase, c'est-à-dire Florian Rossi, son compagnon et père de sa fille. Au-delà de cette jolie chanson à l'arrière-plan People, Louane compte parmi les artistes qui, ces dernières années, ne tissent pas de métaphores poétiques pour parler de santé mentale à la première personne du singulier. Et des millions de gens lui savent gré de parler avec autant de clarté, de simplicité et de sincérité des troubles de l'alimentation, par exemple.
Et j'ai peur de ce qui se passe chaque fois que je mange. C'est un morceau de moi que je mange. Et c'est comme ça depuis toute petite.
Mais cette profondeur sensible a été un peu mise à l'arrière-plan pendant quelques mois, puisque Louane représentait la France au concours de l'Eurovision en mai 2025 avec une chanson puissamment émouvante.
Si je voulais arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman.
Maman, version 2025, 7e place du classement final de l'Eurovision. Malgré une belle mise en scène et une forte dimension émotive, la chanteuse s'adressant à sa mère, morte quand elle avait 17 ans, et évoquant aussi sa propre fille. On trouvait d'ailleurs des échos d'une autre chanson intitulée Maman sur son premier album en 2015.
Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête. Maman.
Résumons donc, Louane veut être chanteuse depuis l'enfance, participe à 12 ans au télécrochet L'École des Stars, puis à 16 ans se fait remarquer dans la deuxième saison de The Voice. Cela lui permet de décrocher le premier rôle du film La Famille Bélier, qui lui apporte un César de meilleur espoir féminin du cinéma et donne une couleur Michel Sardou à son début de carrière.
Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer, sans alcool.
Je vais t'aimer dans le film La Famille Bélier en 2014. Je vole sur son premier album en 2015. 2015, l'année Louane avec quelques tubes écrasants.
Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain.
Dès lors, tout le monde l'aime et son carnet d'adresses brille de mille feux. Écoutons-la, de 2017 à 2023. On était beau, produit par Dany Sinté, Donne-moi ton cœur, écrit et composé par Damso, La beauté d'être à part avec Gaëtan Roussel.
On s'aimait trop. Tu imagines une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Le courage, l'envie d'être honnête et la beauté d'être à part. Le courage, l'envie d'être honnête et la beauté d'être à part.
Et peu à peu, la jeune interprète populaire a mué en une autrice efficace, parfois même brillante dans l'expression des tourments du quotidien. On comprend bien pourquoi le public chante autant avec elle. 2025, Louane, Chien.
Tu m'as trop souvent dit que t'aimais mes yeux, que t'aimais nos nuits. Maintenant j'ai l'air d'une folle mascara d'école. Tu m'y as fait croire, mais t'es qu'un. Je suis bien trop jeune, moi je nous trouvais trop beau, mais t'es qu'un.